Bienvenue dans Résonance. Une émission de Résonance contemporaine sur Radio B, au microphone Alain Goudard. Comme vous le savez, chers auditeurs, Invention à deux voix vous propose des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, anthropologique, sociologique ou politique. Et aujourd'hui, Invention à deux voix vous propose de découvrir le second entretien réalisé par téléphone avec Rosrao Mani, journaliste et écrivain afghan. Un premier entretien avait été réalisé en juin 2017 lorsque Rosrao Mani était en résidence à Bourg-en-Bresse à Radio B. C'était un très grand plaisir de l'entendre parler de son pays, l'Afghanistan, de son métier d'écrivain, de ses ouvrages qu'il a publiés pour certains à Kaboul, dans la ville dans laquelle il résidait. Et puis aujourd'hui, Rosrao Mani vit à Paris. Il travaille à France 24 et plus que jamais, il recherche du temps pour écrire, pour réaliser son métier d'écrivain. Bonjour, Rosrao Mani.
Bonjour Alain.
Ravi, c'est vraiment je suis ravi vraiment, et c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va passer une heure ensemble pour évoquer votre univers, vos réflexions, vos questionnements, vos projets d'écriture, et notamment bien entendu certaines publications. Et on évoquera notamment la parution en 2018 aux éditions Intervalles de Une petite vie. Alors à travers votre travail d'écrivain, Rosrao Mani, vous me disiez, lorsque nous avons préparé cette émission, que vous écrivez pour comprendre la situation dans laquelle vous vivez, comprendre, un moyen pour comprendre moi-même et le monde. C'était un peu ça qui vous guide dans votre projet d'écriture.
Oui, exactement. Moi, je pense que l'écriture, c'est une forme surtout l'écriture des romans, fiction, c'est une façon de comprendre le monde. Pas seulement ma situation, ma propre situation, mais aussi la situation des autres qui m'entourent.
C'est une manière de l'observer aussi, ce monde, c'est une manière de l'appréhender par ses facettes très voyantes, mais aussi par quelquefois ses facettes plus indicibles, plus invisibles.
Bah, exactement, c'est ça. Et écoutez, on vient de parler avant l'émission de Kundera.
Oui.
Dans un de ses livres, je ne me rappelle plus son nom, le titre, il dit que le roman, c'est une sorte de carte existentielle des êtres humains. Et voilà, moi je suis très d'accord avec Kundera et je pense que en écrivant, on essaie de décrire la situation existentielle des êtres humains. Et, bien sûr, cette situation se décrit à travers des histoires personnelles, individuelles. Oui.
Et du coup, c'est à partir de toutes ces situations que vous repérez, observez que petit à petit l'imaginaire lui aussi se met en route et que du coup vous commencez à donner forme à une histoire et qui va trouver place dans un roman.
Exactement. Écoutez, le mot que vous avez utilisé, le mot imaginaire, pour moi, ça c'est très important parce que je pense que moi, en tant que journaliste, en même temps, et écrivain, je pense que ça c'est quelque chose qui distingue les deux métiers, en fait, dans le travail journalistique. On ne parle que des chiffres, des choses factuelles.
Oui, tout à fait.
Tandis que dans le monde littéraire, c'est l'imaginaire qui domine.
C'est ça.
Et à travers un travail où l'imaginaire existe, on peut décrire la situation humaine différemment ou pas tout à fait comme c'est dans la réalité.
C'est ça.
On la voit en dehors de nous.
Vous me disiez aussi qu'à un moment donné, justement, quand vous vous laissez aller dans cet imaginaire, dans comment les situations que vous avez repérées sont suffisamment ancrées en vous et vous emmènent dans je ne sais quoi que vous ne savez pas totalement encore où cela va vous entraîner, où les personnages vont être, comment vont-ils exister, que du coup, vous pensiez avec vos doigts.
Écoutez, moi je pense que c'est pas mon propre idée, parce que moi je l'ai lu quelque part et après je l'ai expérimenté d'une manière ou d'une autre. je pense que c'était Heidegger qui disait que la main pense. Et à travers ça, j'ai découvert Derrida et ses
bien sûr
sur le manuscrit. Vous savez bien que manuscrit, c'est un mot qui vient du latin.
Tout à fait.
Voilà, là on voit toujours le mot main.
Tout à fait.
Et moi, quand j'écris, je pense que je suis en train de réfléchir, de penser. Et c'est le moment le plus réel de penser pour moi. Donc je peux le dire comme ça, j'écris en pensant ou je pense en écrivant. Et je ne sais pas exactement c'est le rapport entre les doigts et ce qui se produit après, mais ce que je ressens, c'est la relation qui existe entre les doigts, les bouts de doigts et le stylo, la plume, je sais pas, le clavier.
Oui, c'est vrai que, comme vous le disiez, et vous avez raison, Derrida aussi a beaucoup écrit par rapport aux propos de Martin Heidegger, notamment, je pense à un séminaire sur Parménide en 1942 entre 1943-42, dans laquelle justement Heidegger a consacré une partie de séance à l'écriture. De l'écriture à la main, à la manuscripture, justement. Et il insistait sur l'importance, justement, comme vous venez de le dire il y a quelques instants, l'importance de la main dans le rapport de l'homme à l'être et à l'étang, et rapport qui révèle, quelque part, de l'essence en ce que l'étang apparaît d'abord comme caché par la main, préservé par la main. La main garde et préserve le rapport entre l'homme et l'étang, entre l'homme et l'être. Et voilà, on voit aussi toute cette importance dit là avec les termes et la pensée de Heidegger, mais effectivement, de comme vous nous l'exprimiez il y a quelques instants, on sent aussi de cette même réflexion aussi pour vous.
Exactement. Écoutez, moi je pense que Heidegger, quand il parle de l'idée de manuscrit ou écrire à la main, ça entre dans sa critique de la domination de machines dans la vie moderne sur la vie des individus. Mmh. Et donc, c'est aussi une critique du temps moderne.
C'est ça.
Je veux dire. Et moi, je pense que là, je ne suis pas très d'accord avec
Heidegger.
Heidegger, quand il critique la machine dans sa totalité, parce que personnellement, mon expérience personnelle, moi je pense que le clavier, l'ordinateur, c'est aussi une sorte de machine.
Oui, bien sûr.
Heidegger, il préférait...
l'écriture manuscrite avec le crayon, le stylo.
Exactement. tandis que quand j'écris sur mon ordinateur ou avec le clavier, j'ai la même impression de penser en écrivant. Mm-hmm. Et c'est ça que je voulais dire.
Oui, et vous exprimiez tout à l'heure, il y a quelques instants, du coup, du bout de vos doigts. Et on peut aussi faire corps, je dirais, petit à petit, lorsque justement l'écriture est quelque chose qui vous est essentiel, importante. Faire corps aussi avec le clavier, qui fait que l'aspect sensitif de contact aussi avec celui-ci, relié directement à votre pensée, votre imaginaire, et devient un prolongement. Donc, il n'est pas le stylo, effectivement. Et ce que Heidegger soulevait et critiquait au travers de la machine. Mais du coup, peut-être qu'aujourd'hui, vivant avec l'ordinateur, il évoluerait peut-être par rapport à ça, on ne sait pas. Peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est de votre part, il y a quand même ce côté sensitif et ce lien avec le clavier qui est quand même de cet ordre de ce lien direct avec la main et de cette traduction directe de la pensée, de la mise en main, et en même temps en même temps, comme il le dit quelque part, la main garde, préserve, découvre d'abord un peu les choses, mais il y a quand même un peu de cela.
Oui, c'est vrai. Écoutez, je suis complètement d'accord.
Alors, peut-être, je voudrais aussi, pour garder encore quelques instants sur ce qui me semble important sur cet aspect de la main, on a évoqué Heidegger, mais je voudrais plutôt prendre aussi un autre grand personnage, Antonin Artaud, notamment vous faire part d'une citation qui émane des messages révolutionnaires, et notamment sur lorsqu'il s'exprime sur la peinture de Maria Izquierdo, et il dit ceci. Ce qu'il y a de très beau, de si précieux dans cette toile, c'est la main. Une main sans déformation, à la structure particulière, et qui a l'air de parler telle une langue de feu, verte comme la partie sombre d'une flamme, et qui porte en soi toutes les agitations de la vie. Une main pour caresser et faire des gestes gracieux, et qui vit comme une chose claire dans l'ombre rouge de la toile. Fin de citation. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, c'est la première chose que je peux dire à propos de ce texte, c'est que c'est très, très beau et très poétique.
Oui.
À part ce qu'on a dit sur l'importance de la main pendant l'écriture, moi je pense que c'est aussi un membre très très important par exemple, caresser.
Tout à fait.
On mange avec nos mains, on fait beaucoup de choses, mais caresser, c'est quand même un acte différent de manger, de brosser les dents,
tout à fait.
Des actes banals. Et voilà, pour moi, c'est très important en tant que membre de mon corps. Et Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Mais je trouve que effectivement, c'est un sujet qu'on n'évoque pas toujours, mais qui est, en tout cas pour un écrivain, est important, parce que c'est vraiment le geste de liaison directe entre la pensée, le membre, les doigts, l'écriture et l'apparition sur le papier, justement après, de cet imaginaire, de cette pensée. Et donc là, il y a quelque chose effectivement de très important, et en tout cas effectivement, c'est un propos dans l'univers littéraire qui, bien sûr, revient assez souvent, bien évidemment.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, cela a une importance, une grande importance, parce que parfois, je pense que sans avoir... sans mes doigts, est-ce que je serais capable d'être écrivain? Est-ce qu'on peut être écrivain sans toucher le clavier, le stylo, sans caresser les mots, les lettres? C'est une question. Et moi, je n'ai pas de réponse, mais personnellement, je pense que non, je ne serais pas capable. Mais en même temps, je me rappelle de Jorge Luis Borges, ou comme on dit en français, Borges. Mm-hmm. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, il devient aveugle.
Oui.
Et, mais il écrivait quand même. Il écrivait, il a continué d'écrire des poèmes, surtout des poèmes, et quelques nouvelles, quelques petites histoires, mais plutôt des poèmes, parce qu'il disait, et il a dit dans deux, trois entretiens, que sans ses yeux, il n'arrivait pas à se concentrer, à voir le papier. Et là, moi, j'évoque un autre membre du corps humain, mais c'est très lié à la main, parce que voilà, on voit, et après on dicte à la main d'écrire, ou on écrit avec la main, mais on le voit toujours. Et voilà, j'ai pensé à Borges, et je pense que c'est sa vie, la fin de sa vie, c'était important de ce point de vue.
Absolument. On a ce côté très intimiste, bien évidemment, très personnel, et le travail de quelque part aussi de labeur de l'écrivain qui, de jour en jour, voilà, entre ses idées, mais aussi ce contact physique, son rapport avec le papier, son rapport avec le son aussi du stylo sur le papier. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments où, bien sûr, le son de l'ordinateur, des claviers aussi qui sont là et qui viennent aussi, je dirais, se mélanger, s'interférer aussi dans toute cette imagination qui est en train de se développer, prendre forme, et des personnages qui vivent aussi au travers de ces moments. Alors peut-être je vais vous proposer justement Khosrau Mani, une première respiration musicale. Je sais que vous aimez aussi beaucoup Erik Satie. Je voudrais vous proposer d'écouter une première gnossienne d'Erik Satie. Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec l'écrivain afghan Rosrao Mani. Voilà, nous avons entendu la gnossienne numéro 4 d'Eric Satie, interprétée au pianoforte par Ilaria Baldacchini, une merveilleuse jeune pianiste florentine que nous avons rencontrée il y a quelques temps. Et nous avons le plaisir, effectivement, dans notre émission. Et si vous vous souvenez, chers auditeurs, il y a déjà quelques émissions, nous avons pu entendre, justement, dans d'autres œuvres, cette merveilleuse pianiste qu'est Ilaria Baldacchini. Alors, nous la retrouverons tout à l'heure, mais pour l'instant, nous retrouvons notre invité du jour, d'invention à deux voix, Rosrao Mani. Et Rosrao, nous avons évoqué de manière fort intéressante à travers vos propos ce rapport à, justement à l'écriture, à la main, mais peut-être nous pouvons aussi évoquer un autre aspect de ce rapport à l'écriture, c'est le fait que vous arrivez bien sûr de l'Afghanistan et que du coup vous vous trouvez aussi dans une, je pourrais dire, une interrogation aussi également. Vous arrivez dans un autre pays avec une autre langue. Vous avez, vous, déjà des habitudes d'écrire dans votre langue. Et du coup, peut-être au travers de vos différents projets d'écriture, il y a aussi cet aller-retour, ces interrogations. En quelle langue j'écris? En quelle langue je pense? Comment ces choses se mettent en œuvre au fur et à mesure que vous écrivez aujourd'hui, ou comment vous avez vécu ces passages de l'un à l'autre, ou comment s'articule finalement entre votre langue originelle et aussi aujourd'hui le français?
Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une expérience. Je veux bien utiliser le verbe étrange.
Oui, étrange.
Parce que avant de venir en France,
oui,
j'étais toujours en Afghanistan, je n'avais pas beaucoup voyagé, je n'étais ouais, jamais exilé. Donc je ne connaissais pas l'exil comme je le connais aujourd'hui. J'avais, je pense, une différente expérience de l'exil, c'était l'exil dans mon propre pays.
Oui.
Mais ça, c'est différent, c'est quelque chose de comment dirais-je, ma différence ou la différence d'idée entre moi en tant qu'individu et la oui, société, ma société. Mais venant en France, moi, je me suis trouvé dans un autre état qui était une sorte de copieur avec mon passé, parce que j'étais obligé, et obligé, là j'utilise ce mot dans le sens
très fortement positif. Oui, positif, oui.
Obligé de...
Oui, oui, là c'était pas parler, l'injonction, mais c'était voilà, le contexte qui vous oblige à découvrir, voilà, une langue et à pratiquer une nouvelle langue.
Pratiquer une nouvelle langue qui est le français, et en même temps, je lisais en anglais et parfois en espagnol, donc trois, quatre langues, mais
c'est
surtout le persan, et le français, et l'anglais. Vous savez, ce va-et-vient entre les trois langues, c'est pas toujours facile.
J'imagine.
Parce que à la maison, avec mon épouse, par exemple,
oui,
on parle toujours persan, on n'arrive pas à parler ni anglais ni français. Quand je travaille, quand je suis dans la ville, je suis avec les Français, je parle français, bien sûr. Et quand je lis en anglais. Donc, pour chaque mot, pour chaque chose, j'ai besoin de connaître, d'avoir trois mots.
C'est ça. Vous avez plusieurs mots qui viennent associés à l'idée.
Voilà. Un pied, c'est pas toujours un pied, parce que ça peut être un eston, ça peut être un sang en persan.
Oui.
Et donc, ça, c'est... les premiers jours, ça, c'est un peu compliqué, mais après, ça devient une sorte d'habitude, bien qu'il soit pas toujours... toujours évident.
Bien sûr.
Mais quand même, ça c'est, moi je le décris comme une sorte d'exil engagé. Et j'aime bien ce terme parce que l'exil, normalement, c'est une expérience physique. On est quelque part et tout à coup, on est ailleurs.
C'est ça.
C'est l'exil physique. Tandis que l'exil engagé, on est en train on est omniprésent, ici et là, en même temps. On est, moi, je suis en Afghanistan parce que je parle persan, mais je suis aussi en France parce que je parle français ou j'écris français ou je pense en français. Et en même temps, je suis n'importe où, dans quel pays anglophone, parce que l'anglais, ça aussi, ça existe dans ma vie.
Oui, c'est ça. Et du coup, bien sûr, quand vous évoquez l'exil langagier, ça mélange, ça vous fait habiter des sonorités, des logiques différentes, des mémoires aussi qui s'alternent, s'enchaînent, s'enchevêtrent aussi, quelquefois. Et est-ce que du coup, on pourrait dire qu'au carrefour, peut-être de toutes ces langues, de toutes ces sonorités, de toutes ces références, de toutes ces mémoires aussi, c'est un langage qui petit à petit va peut-être aussi, au fil de vos projets d'écriture, de vos livres, c'est un langage qui s'invente quelque part ?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais avant de répondre à votre question, moi, j'aime bien dire que là, maintenant, je pense que je connais mieux ma langue maternelle qu'avant, j'étais en Afghanistan. Donc, il me semble que pour connaître sa propre langue,
il faut se déraciner,
s'exiler.
Pour pouvoir mieux connaître sa langue, il faut aller ailleurs, il faut pouvoir se déraciner de cette culture pour pouvoir mieux la revoir, mieux la ressentir, ou parce que du coup, elle vous interpelle tout autrement ?
Parce que les deux, parce que il vous interpelle autrement, mais aussi parce que c'est à travers une nouvelle langue que vous voyez des choses, qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant.
C'est ça.
Et moi, par exemple, quand je vois les tournures des phrases en français, quand je vois j'apprends des mots que je connaissais pas avant, et quand je lis en français et un texte qui explique, je sais pas, une idée d'une façon, d'une manière complètement différente. Bah, ça interpelle parce que dans ma langue, c'est pas comme ça. Et donc, je pense peut-être inconsciemment à ma langue et je les compare. Écoutez, je faut bien dire que, à mon avis, notre rapport avec notre langue maternelle, c'est un rapport, dirais-je, naturel, entre guillemets. Ça veut dire, pour vous, en tant que Français, pour moi, en tant que personnophone, une pierre, c'est toujours une pierre.
Bien sûr.
Pour un Français, parce que il peut pas la nommer différemment. Et pour moi, c'est toujours un sangle, parce que je peux pas
la nommer autrement.
La nommer différemment, parce que c'était toujours un sangle pour moi. Et donc, moi, je pense que ce rapport avec la chose qui est une pierre, ce rapport dans la langue maternelle, c'est toujours un rapport naturel, bien que les linguistes soient pas d'accord avec ça, avec ce propos, mais c'est mon impression. Et quand quand on est exilé, quand on est dans un autre pays, on pratique une autre langue tous les jours, là, il y a une sorte de coupure, parce que les mots qu'on utilise, le vocabulaire, c'est plus le même vocabulaire. Et donc, on est obligé de nommer les choses différemment.
C'est ça.
Et ça, cette différence entre les deux États, l'État, je dirais, naturel, l'État qui n'est pas naturel, ça, à mon avis, ça s'exprimente dans l'exil.
Il y a, pour rester en référence, on évoquait tout à l'heure dans notre conversation Milan Kundera, donc qui lui aussi a vécu l'exil, et peut-être pour faire un lien avec ce que vous venez d'exprimer justement, et on sait que c'est une chose qu'il a travaillé dans certains de ses ouvrages, il suggérait aussi que l'oubli, il y a une affaire d'oubli et de mémoire finalement dans ce que vous disiez tout à l'heure, des forces aussi qui se mettent immédiatement à l'œuvre et qui coopère finalement. La force de l'oubli qui, bien sûr, peut effacer, mais aussi la force de la mémoire qui va transformer, qui va modifier, qui va faire ouvrir ailleurs. Vous seriez d'accord avec cette pensée un peu de Kundera ?
Complètement. Moi, je suis complètement d'accord. Et là, je pense que la question de l'oubli et de la mémoire, pour un exilé, ce que Kundera dit, c'est une question qui est toujours présente.
C'est ça.
On la ressent toujours.
Bien sûr. Je voulais juste resituer donc pour nos auditeurs, pour ceux et celles qui découvriraient le nom de Milan Kundera, qui est un auteur qui a quitté Prague et qui lui aussi, comme vous, s'est réfugié en France. Alors lui en 1975, et puis il a été déchu de sa nationalité tchèque, qui était son pays donc d'origine, et puis il obtient la nationalité française en 1981, et il commence aussi, comme vous, donc à écrire en français à partir de 1995. Donc il va mettre un certain temps, je veux dire, à écrire aussi dans une autre langue que la sienne, et il va aussi montrer aussi, c'est pour ça qu'il parle aussi de cette force de l'oubli qui efface, la force de la mémoire qui transforme. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il évoque à un moment donné, Kundera évoque aussi la chose suivante par rapport à l'exil, en disant « il faut apprendre à voir l'exil comme un choix libre, un projet créatif que l'homme fait dans la condition de déraciner ». Qu'en pensez-vous, Rostrav Mani ?
Écoutez, moi, là, je suis d'accord avec Kundera, mais je veux bien dire que ce qu'il dit, c'est, oui. C'est une situation idéale. Et c'est toujours pas le cas. Moi, là, maintenant, je travaille dans le domaine de migration, et donc...
Oui, vous êtes à France 24, hein, vous êtes... vous avez... Hein, c'est ça.
Voilà. Et Infomigrant, c'est...
Infomigrant, voilà, hein, sur France 24, c'est, voilà.
C'est domaine de travail.
Oui.
Moi, je pense que dans une situation idéale, ça, l'exil peut être un choix libre, un choix... on peut choisir l'exil parce qu'on a besoin d'être ailleurs, de s'enraciner dans une autre langue, dans une autre culture, je ne sais pas, une autre manière de vivre, de vie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Bien
ça,
sûr.
C'est une petite parenthèse.
Bien sûr, vous avez raison de la faire.
Voilà. Mais pour moi, qu'écrivain, moi, je pense que même si mon exil était une sorte de crainte, moi, j'aime bien le définir comme un choix libre.
C'est ça.
Parce que en France, une fois arrivé en France, je me suis retrouvé, je pense.
Ah, vous avez, c'est un moment, donc une épreuve aussi en même temps, mais un nouveau contexte, une nouvelle situation, mais qui vous a permis peut-être finalement de vous retrouver plus, de manière plus forte, de qu'est-ce que pouvait être, ce que vous pouviez être et les enjeux que vous aviez envie de poursuivre sur votre chemin de vie.
Bah, écoutez, je me suis retrouvé parce que je pense que, et d'une manière très forte, ça c'est vrai, mais aussi d'une manière très intime. Mmh. Moi, je, en tant qu'Afghan, que quelqu'un qui vivait dans un pays qu'il n'aimait pas trop, à vrai dire, mmh. ou un pays où moi je n'étais pas très toujours d'accord avec les traditions, la culture dominante, je ne sais pas, avec beaucoup de choses.
Oui.
Je me sentais, je me disais toujours que là, cette personne qui est Khosra Omani, c'est pas vraiment quelqu'un que moi j'aime être. Mmh. C'est quelqu'un qui s'oblige à être comme des gens qui habitent ici, qui vivent dans ce pays, qui respectent, je ne sais pas, les codes de la vie commune et toutes ces choses. Et donc, j'étais obligé de faire des choses ou d'écrire même d'une façon que...
qui ne vous correspondait pas.
Qui n'était pas toujours, toujours vrai.
Et vous me disiez justement que dans cette situation de migrant et d'être ici, et le fait que ce que vous disiez à l'instant, que vous vous redécouvriez, vous m'aviez dit aussi que finalement vous découvriez des mois toujours différents, tous les jours. Et il y a une jouissance finalement de découvrir tous ces mois.
Bah, écoutez, oui, c'est toujours une jouissance.
Oui.
Je voudrais dire que c'est moi j'aime bien c'est moi différent parce que c'est au début pour moi c'est quelque chose de proustien. Quand je lisais pour la première fois son chef-d'œuvre, je pensais toujours que je suis en train de lire moi-même ma vie, bien que c'était pas mes expériences, ce soit pas mon expérience personnelle, mais là il y a toujours cette présence de moi différents et pour moi aussi c'est pareil. Dans ma vie quotidienne, je vois toujours des personnes différentes qui se prénomment Khosrau, mais qui sont là dans un seul corps, mais qui sont différentes et pas une seule personne. Le corps est bien sûr un seul corps, mais les personnes ne sont pas les mêmes personnes.
Alors peut-être...
Donc, il y a toujours...
Oui, allez-y, Khosrau.
Il y a toujours cette sensation, moi. Je le ressens toujours. Mais si on revient à l'exil, à notre propos, moi je pense que... En exil, on le voit très clairement. C'est moi différent. Parce que l'exil, c'est une déchirure.
Oui.
Ça montre que déjà, il y a quelqu'un qui était. Et déjà, il y a quelqu'un qui est. C'est d'autant le passé qui est un jeu. À moi à moi qui n'est plus et le moi actuel qui est à moi qui ne sera plus dans l'avenir.
C'est ça. C'est ça. Il y a une espèce de transformation progressive ou des transformations qui s'effectuent. Alors peut-être que, justement, nous avions écouté ce cher Eric Satie tout à l'heure, qui lui aussi nous fait découvrir des facettes très différentes de lui. Et je vous propose de le retrouver immédiatement. Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec l'écrivain afghan Khosrau Mani. Voilà, cher Khosrau, une petite valse, justement très intime, très fragile en même temps, très, très diverse aussi. On parlait de personnages multiples, une autre manière, donc, au travers de cette valse indiquée, intitulée « Je te voue », interprété toujours par Ilaria Baldacchini, et c'est un disque qui est sorti chez le label Emma Vinci, label florentin qui devient de plus en plus important justement par rapport à Stradivarius, donc autre label italien, donc et qui est établi tout proche de Florence. Voilà, une pensée à Giuseppe Scali, le directeur du label Emma Vinci, avec lequel nous avons l'occasion de collaborer très régulièrement. Voilà, Khosrau Mani, ces petites valses. Alors peut-être pour en profiter, pour maintenant évoquer certaines de vos réalisations. On a parlé tout à l'heure en début d'émission d'une petite vie de cet ouvrage qui est paru aux éditions Intervalle en 2018, pardon. Comment vous pourriez nous dépeindre l'univers justement de cet ouvrage, une petite vie? Qu'est-ce qui vous a intéressé justement? Qu'est-ce que vous avez cherché en écrivant une petite vie?
Écoutez, moi je... Ça, on a dit en début de notre entretien que par parfois on peut penser, on peut penser avec l'écriture et donc on peut comprendre le monde.
Bien sûr.
Ce livre, ce petit livre, pour moi, c'était une manière de comprendre un monde irréel mais possible.
C'est ça.
Voilà. Juste à noter que moi, j'étais à Kaboul à l'époque.
Oui.
Je vivais dans une situation...
difficile.
Pas très géniale. Ma vie personnelle et aussi la vie politique de mon pays. Et voilà, écrire dans une telle situation, d'un sujet qui est un peu onirique, qui parle de, je sais pas, de la, du rêve, voilà, surtout du rêve, ça c'est un peu difficile et je m'attendais à beaucoup de reproches, de critiques.
Oui.
Les gens disaient que on habite, on vit dans en guerre, dans une situation d'urgence. Et là, dans cette situation, ce que toi, en tant que qu'auteur de ce livre, tu décris, c'est complètement différent de notre situation. Pour moi, cependant, c'était une sorte de... Je voulais protester contre la situation qui...
C'est ça. Dans laquelle vous étiez.
La situation dominante.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Parce que je me méfie un peu, je sais pas si j'ai raison ou pas, je me méfie un peu des grandes choses, je sais pas, des situations dominantes, des choses que les médias disent toujours, les choses que les politiciens disent toujours. Parce que je pense que ça, c'est une manière de dominer le monde, les êtres humains. Et donc, dans une situation pareille, écrire quelque chose qui n'entre pas dans le cadre des d'actualité, ça peut être aussi un acte de une sorte de comment dirais-je, protestation, une
c'est
sorte
ça.
De voilà, on réagit différemment.
Et vous
pour
disiez...
moi, c'est plutôt un livre qui voilà, qui montre le monde intérieur, mon monde intérieur,
c'est ça.
Mais en même temps qui proteste.
Donc du coup, si je reprends aussi toujours en parlant d'une petite vie, c'est cette histoire, hein, finalement, elle s'adresse donc à un lecteur qui n'est pas notamment pressé de savoir ce qui va se passer, un lecteur qui accepte de se laisser emporter dans un monde où imaginaire, histoire, passé et réel, bien concret se côtoient, où l'on s'arrête davantage sur des images insolites que sur ce qui se passe. C'est un peu ça, une petite vie.
Oui, c'est tout à fait.
Aussi,
tout à
fait, aussi. C'est un langage de protestation, mais c'est aussi, au travers de ce langage de protestation, justement, emmené dans ce passage entre le réel, l'irréel, l'imaginaire, mais sans savoir trop exactement non plus ce qui s'y passe.
Bah, écoutez, Italo Calvino, il a une phrase que moi j'adore.
Oui.
Il dit j'aime bien lire, j'aime bien écrire des livres que si j'étais lecteur, j'aurais j'aimais lire un tel livre.
Peut-être aussi, Ross Ravmani, peut-on évoquer un autre ouvrage qui s'intitule « La mort et son frère ». Je crois que d'ailleurs c'est un titre que vous avez choisi mais qui provient d'une poétesse anglaise. Et quel est le sujet aussi de ce projet de livre de « La mort et son frère » qui, je crois, devrait donc être traduit, enfin qui doit être en traduction actuellement et qui devrait paraître chez Actes Sud, hein ?
La mort et son frère, c'est un roman que moi j'écris en France.
Oui.
Je peux dire que en comparaison, par exemple, avec Une petite vie, c'est un livre complètement différent.
Oui.
Parce que dans ce livre, je parle d'une ville qui s'appelle Kaboul, qui est Kaboul, ma ville natale.
Natale.
Et il y a une histoire, bien que l'histoire ne soit pas très linéaire, mais il y a quand même une histoire. C'est ce que les gens, mes amis, les critiques en Afghanistan disaient en lisant Une petite vie, qu'il n'y a pas d'histoire.
Oui, c'est ça.
Et c'est pourquoi je dis que là, il y a une histoire.
Là, il y a une histoire. Oui.
Donc, on connaît bien les personnages qui sont nombreux. Voilà, c'est un petit accident dans une famille.
Oui.
Qui n'est pas vraiment un petit accident, un grand accident, parce que c'est la mort de quelques membres d'une famille.
Ah oui.
Et puis, et c'est pas une mort, comment dirais-je, une mort naturelle, entre guillemets, c'est une mort causée par une roquette jetée par les extrémistes et tout ça.
Donc frappé par la guerre civile qui existe actuellement.
Voilà, une famille frappée par la guerre. Et voilà, ça c'est un petit chapitre. Et après, il y a d'autres chapitres avec d'autres personnages qui sont, d'une manière ou d'une autre, liés
à cette histoire.
Mon personnage principal.
D'accord.
Donc chaque chapitre est consacré à
un de ces personnages. Non, mais très bien.
Et juste...
Oui, je vous en prie,
Bosrao. Je voulais ajouter que il y a aussi un personnage un peu hors norme, parce que il est apparemment écrivain, et on ne le voit que dans le premier chapitre et dans le dernier chapitre des livres. Et cet écrivain, il vit à Paris, et Il est à Paris, mais les autres, ils vivent toujours à Kaboul.
C'est ça. C'est aussi peut-être un Rosrao Mani qui est déjà à Paris.
Je pense.
Quelque part.
Écoutez, l'idée de ce livre, ça c'est aussi un peu bizarre, parce que moi, j'attendais pas du tout à ce livre, à écrire ce livre.
Ouais.
Un soir, j'étais dans une soirée, et puis je suis sorti et...
Mais cette idée vous est venue, s'est imposée.
Pardon ?
Cette idée s'est imposée de ce livre, le sujet de ce livre, du coup.
Oh, voilà, exactement. Et j'étais dans le métro, c'était le dernier métro de la nuit, du soir, et... les portes étaient en train de se fermer quand j'ai vu un jeune homme français qui courait vers le métro, mais qui a raté au dernier moment le métro. Il était très furieux, très en colère. Il a commencé à crier et à insulter, je ne sais pas qui. Et moi, j'étais dans le métro, donc je ne savais pas. Et puis, je me suis dit, pendant le trajet, écoute, pour un jeune homme parisien, ce petit accident, c'est un drame.
Oui,
ça peut être un drame.
C'est sûr. Oui,
tandis que pour peut-être quelqu'un, je ne sais pas, en Syrie, je ne sais pas, en Soudan, en Afghanistan ou ailleurs... un drame, c'est pas vraiment ça, c'est différent.
C'est ça.
C'est la vie ou la mort.
Ça a des dimensions beaucoup plus importantes. Oui, c'est ça. Et effectivement. Alors peut-être aussi pour rapidement évoquer un peu tous les sujets que vous avez aussi un peu en route d'écriture, il y a, je crois, aussi un autre roman qui, bien sûr, aussi s'appuie sur votre pays, l'Afghanistan, mais qui a plus un peu des rapports historiques, puisque je crois que vous travaillez aussi sur des sources, enfin vous remontez sur la période vers 1839, l'arrivée des Britanniques, en tout cas toute cette période coloniale, justement, et du coup, peut-être que vous cherchez à explorer les raisons, la présence des Européens dans votre pays, enfin en tout cas, tout cet changement aussi très important qui va se passer dans votre pays, et donc, où pour faire cet ouvrage, vous effectuez un énorme travail de recherche de documents, d'informations, de croisements d'informations historiques et de tous ordres pour pouvoir écrire ce prochain livre.
Exactement. En fait, moi, j'ai déjà fait la recherche.
Oui.
C'était pas du tout évident.
J'imagine, un gros travail.
Oui. Je pensais, avant de commencer l'écriture de ce livre, je pensais que peut-être avec ces livres historiques, ça sera possible de comprendre la situation d'un jeune homme, par exemple, qui vit dans une autre période historique et une période très, très importante dans l'histoire de mon pays. Mais après, je me suis dit, non, je connais les facts, mais je ne comprends pas cette période. Pour comprendre cette période, il faut écrire. Et il faut absolument écrire un roman.
C'est ça, pour pouvoir un peu comprendre.
Je me lançais. Je me mettais à écrire ce roman qui n'est pas un roman historique. Le contexte historique, c'est un peu différent, mais c'est pas. Moi, je décris pas les royaumes, les guerres.
C'est ça, oui, c'est pas un descriptif, une description de l'histoire de ces moments-là, mais simplement que vous vous appuyez sur ces éléments pour imaginer.
Exactement, parce que sinon, ça sera pas. Très génial, parce que moi j'aime quand même, quand je décris la ville par exemple, j'aime bien dire qu'il y a une citadelle qui est là, qui date de je sais pas quand, et là c'est quelque chose d'historique, ça doit être exact, je pense.
Bien sûr.
Et aussi les faits historiques comme l'arrivée des Britanniques, ça, ça c'était en 1839 par exemple. Je veux pas le décrire différemment. Et leur retour et en même temps cette rencontre qui est la chose la plus importante pour moi, parce que c'est pas seulement le côté, l'aspect de, je sais pas, l'aspect colonialiste de cette rencontre qui est intéressant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la rencontre de deux façons de mode de vie. Là, je parle des individus qui sont soit anglais, soit afghans.
Soit afghans.
Mais qui vivent pas dans un monde commun.
C'est ça. Il y a des mondes qui se côtoient, qui se rencontrent.
L'un avec l'autre, on voit bien que pour un Afghan, piano, c'est quelque chose d'inconnu, par exemple, parce que ça n'existait pas à l'époque en Afghanistan.
C'est ça, bien sûr. Peut-être, Rosrav, nous allons peut-être pas tout dévoiler, parce que nous arrivons au terme de notre entretien. En tout cas, je pense que ça va donner envie à nos auditeurs de découvrir, dès que cela sera possible, justement, le contenu de ce prochain livre. En tout cas, je voulais vous remercier très sincèrement de nous avoir fait partager ce moment de conversation. Et j'espère, chers auditeurs, que vous avez suivi pas à pas la pensée, la réflexion, les interrogations aussi qui vous animent, Rosrav Omani. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
En tant que vous savez, de toute façon, Rosra Omani, il suffit de nous appeler et vous serez toujours, en tout cas, le bienvenu dans cette émission. Donc, c'est dire que j'espère que prochainement, nous pourrons encore converser ensemble et puis donner encore une petite fenêtre sur votre chemin d'écrivain aujourd'hui et sur tous ces ouvrages qui sont en gestation. Alors à très bientôt, Rosra Omani.
À très bientôt, merci.
J'espère, chers auditeurs, que vous avez eu plaisir à découvrir cette nouvelle émission de Résonance. Celle-ci a été réalisée avec la complicité de Simon Deborn à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne ou en podcast, surtout sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez nous communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à très bientôt sur Radio B.